Vous écoutez France Culture, il est 8h, voici le journal avec Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. C'est la pire tragédie en Méditerranée depuis le début de l'année, selon le haut commissaire aux réfugiés des Nations Unies. 110 migrants sont portés disparus depuis hier au large des côtes libyennes. Récit de ce naufrage avec Claude Guibal.
L'accueil des migrants en France, alors que le Conseil constitutionnel se penche ce matin sur les conditions d'accueil des jeunes migrants et des jeunes mineurs isolés.
La CIMADE continue dans le même temps d'exercer son droit de retrait dans un centre du Ménil-Amelot près de Roissy. Une décision prise après deux tentatives de suicide de migrants. Reportage dans ce journal. Nous irons aussi en Espagne où le socialiste Pedro Sanchez se rapproche de plus en plus de nouvelles élections après l'échec hier pour obtenir le vote de confiance des députés.
En France, La République En Marche a investi cette semaine 38 nouveaux candidats pour les élections municipales, notamment dans les grandes villes comme Lille et Aix-en-Provence.
Mais la bataille des investitures s'annonce très conflictuelle, nous dira Stéphane Robert. Et puis nous rendrons hommage au grand journaliste Pierre Péan, mort cette nuit. Il avait dévoilé notamment l'affaire des diamants de Bokassa. Nous y reviendrons avec Antoine Marette. C'est la pire tragédie en Méditerranée cette année, selon les mots du haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, hier. Il a réagi sur Twitter après avoir appris le naufrage d'un bateau de migrants au large de la ville libyenne de Homs, à 120 km à l'est de Tripoli. Le récit de Claude Guibal.
Un simple bateau en bois et 250 personnes à bord. Un naufrage, un de plus au large de la Libye. Plus d'une centaine de migrants, des femmes, des enfants ont disparu selon l'Organisation internationale pour les migrations. Les gardes-côtes libyens et les pêcheurs ont récupéré et secouru 145 personnes. Le récit terrible de ces rescapés vient encore souligner l'absurdité vertigineuse du macabre bilan de la migration en Méditerranée. Ce naufrage est le plus meurtrier depuis le début de l'année. Il s'ajoute aux 426 personnes déjà disparu en mer depuis le mois de janvier. Les passages par voie maritime ont certes diminué, mais le taux de mortalité, lui, continue à augmenter. L'an dernier, 6 morts par jour en Méditerranée, devenue la route maritime la plus meurtrière au monde. Lundi, Emmanuel Macron annonçait que 14 pays européens venaient enfin de donner leur accord pour mettre en œuvre un mécanisme de solidarité pour se répartir les migrants secourus en Méditerranée. Une décision accueillie avec grande prudence par les ONG.
Claude Guibal, les rescapés vont désormais aller dans les terribles centres de rétention libyens, s'inquiète Médecins sans frontières. En France, les conditions d'accueil ne sont pas comparables avec celles des centres libyens, mais la situation reste inacceptable selon la CIMADE du centre de rétention administrative du Ménil-Amelot près de Roissy qui a décidé d'exercer son droit de retrait. Une décision prise il y a 10 jours après 2 tentatives de suicide, 3 autres personnes qui menacent de se tuer et des traitements qualifiés d'inhumains. Face à la colère des salariés, 2 parlementaires communistes ont décidé une visite surprise hier dans ce centre de rétention. C'était le cas de la sénatrice communiste du Val-de-Marne Laurence Cohen et de son collègue de Seine-Saint-Denis Fabien Gay. Fiona Magada était sur place.
Hormis les familles, femmes et hommes sont répartis dans différents bâtiments dans ce centre. Dans l'une des cours où le soleil tape et le bruit des avions est incessant, quelques femmes discutent dans un carré d'ombre. L'une d'elles sert de traductrice à la sénatrice Laurence Cohen. À ses côtés, une dame syrienne pleure en silence. Elle est arrivée il y a 18 jours.
Elle est rentrée en Allemagne. Son mari, il habite en Angleterre, en train.
Elle voulait aller le voir
en urgence.
Oui, en urgence, et elle a été
arrêtée. Depuis, elle est là. Elle a dit qu'elle ne supporte pas le bruit de l'avion.
Difficile de connaître précisément leurs conditions de vie ici.
Un homme là-bas, il a dit un jour, ça fait l'équivalent d'une année. Beaucoup de stress, beaucoup. Pour aller chercher un papier, il faut la police. On dirait, moi, je suis criminelle.
Vous mettez des menaces ?
Une seule fois. Pour aller au tribunal, c'est dur.
Il faut dire que durant toute cette visite, nous sommes accompagnés de la directrice du centre de rétention et de quelques policiers. À l'opposé, dans le bâtiment des hommes, le sénateur Fabien Gay fait le tour des chambres. Chacune peut accueillir 2 personnes dans un lit superposé. Les douches et toilettes sans cuvette sont sommaires, à peu près propres. Le sénateur s'assure que les fontaines à eau fonctionnent, ce qui n'était pas le cas lors de sa dernière visite. Mais c'est surtout leur situation personnelle que les retenus veulent raconter, comme cet homme géorgien qui tente de se faire comprendre.
Normal, il y a, je pense, les reins, les côtes. Et en fait, il n'arrive pas à se faire comprendre par le docteur. C'est qu'on arrive, en fait, on est au bout du système.
Administration comme service médical assure que des traducteurs sont joignables lors des consultations médicales. Après leur visite, les 2 élus n'ont pas changé d'avis sur l'existence même de ces centres qu'ils jugent inhumains. Mais ils reconnaissent qu'hier, les conditions de rétention étaient plutôt correctes.
Quant aux équipes de la CIMADE, elles n'ont pas encore indiqué leur date de retour. Des discussions sont toujours en cours avec les autorités.
Il est 8h05 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont. Constat d'échec hier en Espagne, le socialiste Pedro Sanchez n'a pas obtenu la confiance pour former son gouvernement.
Et le chef du gouvernement espagnol n'est pas parvenu à convaincre Podemos de gauche radicale de rejoindre ses voix, de joindre les voix donc au Parti Socialiste. Il n'est donc pas reconduit pour un mandat de 4 ans, en tout cas pas pour le moment. Le récit à Madrid de Mathieu de Taillac.
Pedro Sanchez aurait pu demander à nouveau à Podemos de voter pour lui lors du discours qui précédait le vote, hier après-midi, mais visiblement, il se savait battu, alors il a préféré expliquer pourquoi il ne céderait pas davantage.
Si pour être
président du gouvernement, je dois renoncer à mes principes, si je dois former un gouvernement en étant conscient qu'il ne sera pas utile à mon pays, alors vous avez raison, je ne serai pas président.
Ahora. Sur les bancs de Podemos, des murmures d'indignation. La gauche radicale le répète, ce qu'elle veut, dit-elle, davantage que des fauteuils de ministres, ce sont des compétences. Pablo Iglesias, secrétaire général du parti.
Nous renonçons au ministère du Travail si vous nous cédez les compétences pour diriger les politiques de retour à l'emploi dans ce pays. Et si vous n'acceptez pas notre proposition, je vous tends la main. À nouveau, ne conduisez pas les Espagnols à des élections, négociez avec nous, avec respect.
Car tout n'est pas encore perdu. La Constitution prévoit qu'après un premier échec, le Parlement a 2 mois pour investir un candidat. Podemos et des petits partis favorables à une coalition de gauche croient qu'une négociation plus profonde pourrait aboutir avec une épée de Damoclès. Si aucune majorité n'émerge, des élections anticipées auront lieu le 10 novembre prochain. Aujourd'hui, la présidente du Parlement doit informer le roi du résultat du vote. Felipe VI devra, dans les prochaines semaines, recevoir les chefs des partis pour, le cas échéant, charger l'un d'entre eux, très probablement Pedro Sanchez, de briguer à nouveau la confiance de la Chambre.
Mathieu de Taillac à Madrid pour France Culture. Nous ne négocierons pas l'accord sur le Brexit, dit ce matin Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des affaires européennes. Elle s'est exprimée après qu'on a appris par un communiqué de l'Élysée qu'Emmanuel Macron invite Boris Johnson à une visite en France dans les prochaines semaines. Un peu plus tôt dans la journée hier, le nouveau Premier ministre britannique avait discuté au téléphone avec le président de la Commission européenne. Jean-Claude Juncker a réaffirmé que l'accord de divorce conclu avec le Royaume-Uni était le seul possible pour l'Union européenne, un accord qualifié d'inacceptable par Boris Johnson. En Tunisie, après la mort du président Béji Caïd Essebsi hier à l'âge de 92 ans, un deuil de 7 jours a été décrété. L'élection présidentielle prévue initialement en novembre a été avancée à septembre prochain. Le président du Parlement est devenu président par intérim. En France, la campagne pour les élections municipales s'annonce difficile et conflictuelle pour La République En Marche. Le parti majoritaire a investi cette semaine 38 nouveaux candidats, notamment dans de grandes villes comme Lille et Aix-en-Provence. Il s'agit de la 5e vague d'investiture dévoilée par En Marche depuis début juin et les points de friction se multiplient. Un certain nombre de ces investitures sont contestées à Lille, à Aix, mais aussi à Paris et à Bordeaux ou encore à Lyon, que ce soit en interne ou par l'allié Modem de François Bayrou, Stéphane Robert.
À Lille, ce n'est pas la députée Valérie Petit qui a obtenu l'investiture, c'est sa rivale, Violette Spieboot, issue du PS et ancienne chef de cabinet de Martine Aubry. Valérie Petit s'est montrée très amère après sa défaite. « Je pleure pour ma vie », l'a-t-elle déclaré, car elle est perdue et elle dit vouloir prendre le temps de réfléchir à son avenir au sein de La République En Marche. Deux autres villes génèrent des tensions, cette fois avec les alliés du Modem. Bordeaux, d'abord, où François Bayrou a bien du mal à accepter qu'un proche d'Emmanuel Macron ait été investi, Thomas Cazenave, alors que le Modem soutient le maire sortant, Nicolas Florian, qui avait succédé à Alain Juppé en mars dernier. Il y a aussi Aix-en-Provence, où la majorité nourrit des espoirs de conquête. La maire sortante, Maryse Joissin, condamnée par la justice, y est affaiblie. Et du coup, ça se déchire. En Marche a investi sa députée, Anne-Laurence Pétel, tandis que le Modem continue de pousser la candidature de son député, Mohamed Lakhila. Le conflit pourrait ouvertement éclater à la rentrée. Il y a encore la ville de Lyon, où Gérard Collomb ne veut rien lâcher face au président de la métropole, David Kimmelfeld. Emmanuel Macron s'y est rendu début juillet pour essayer de régler le problème. Sans succès pour le moment. Et enfin, il y a Paris. Paris qui représente un grand espoir de victoire pour Emmanuel Macron. À Paris, le 10 juillet dernier, c'est l'ex-ministre Benjamin Griveaux qui a été investi. Mais son ancien rival, le mathématicien Cédric Villani, n'a semble-t-il pas renoncé à se présenter. Son entourage a fait faire un sondage il y a quelques jours qui montre qu'il est bien plus populaire que Benjamin Griveaux. Villani, lui, a déclaré vouloir prendre le temps de réfléchir et fera connaître sa décision à la rentrée en septembre.
Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture.
On reste à Paris. Paris où une pollution au plomb entraîne l'interruption du chantier de reconstruction de Notre-Dame.
Oui, des travaux suspendus pour quelques jours sur décision du préfet. La pollution résulte de l'incendie de la cathédrale et un rapport de l'inspection du travail dénonce des règles de précaution qui ne sont pas appliquées sur ce chantier. Par ailleurs, deux écoles du centre de Paris sont fermées à cause de cette pollution au plomb relevée par l'Agence régionale de santé. Ces écoles accueillent 180 enfants cet été en tant que centre de loisirs. De nouvelles mesures doivent être annoncées aujourd'hui, Maxime Fayolle, mais ces mesures de précaution paraissent bien tardives pour médecins et associations de défense de l'environnement.
Selon l'ARS, la concentration de plomb dépasse le seuil de 5000 microgrammes par mètre carré, notamment dans la cour de ces deux écoles. C'est ce qui justifie leur fermeture. Une mesure avec 3 mois de retard, se désole Jackie Bonnemain de l'association Robin des Bois, qui demande une protection depuis le lendemain de l'incendie.
On avait dit, et ça avait choqué pas mal de gens, que Notre-Dame était une friche industrielle et qu'il fallait, avant de parler de reconstruction, réaliser l'assainissement de la cathédrale, et aussi de tous les sites pollués par les poussières après l'incendie et pendant l'incendie avec la trajectoire du panache qui partait vers l'ouest.
Désormais, les poussières de plomb se sont distillées un peu partout sur l'île de la Cité et même en dehors. Il en résulte des risques pour les organismes, résume le docteur Jean Lefebvre, membre de l'association Santé Environnement France.
La libération de plomb, elle a duré 3 jours. Après, il en est ressorti qu'il y a des poussières partout avec des endroits où il y en a beaucoup, beaucoup trop. Si on enlève ces poussières, on peut se dire que l'exposition sera beaucoup moins importante quand même. Mais si on laisse les poussières, ça va devenir une exposition chronique. Si vous laissez les enfants dans des endroits pollués et que vous n'enlevez pas la pollution, on aura des signes d'intoxication chronique, ce qui a priori n'est pas le cas.
Les enfants, mais aussi les femmes enceintes, sont particulièrement vulnérables en cas d'intoxication. Une maladie, le saturnisme, peut alors se déclarer. Elle se caractérise notamment par des douleurs abdominales et des maux de tête.
Maxime Fayolle pour France Culture. C'est une journée cruciale pour les anciens salariés de Whirlpool à Amiens, dans la Somme. Le tribunal de commerce doit se prononcer ce matin sur l'avenir de WN, la société qui avait repris l'entreprise et ses 160 salariés en mai 2018 et qui a été placée en redressement judiciaire le mois dernier. On a appris cette nuit la disparition de l'une des figures du journalisme d'enquête en France. Pierre Péan s'est éteint hier, il avait 81 ans. Bonjour Antoine Marette.
Bonjour.
Alors parmi ces sujets de prédilection, l'Afrique, les médias et la face cachée des personnalités politiques.
Et son coup de maître, il le réalise en 1994 avec Une jeunesse française, un pavé dans lequel il détaille les ambiguïtés de François Mitterrand pendant la Seconde Guerre mondiale, son passage de la droite pétainiste collaborationniste au camp adverse, celui de la résistance. Autre personnalité politique décryptée par sa plume précise, Jacques Chirac, Bernard Kouchner et plus récemment Jean-Marie Le Pen. Pierre Péan se sera également intéressé aux médias et en particulier à TF1 en 1997. Un ouvrage écrit comme un thriller politico-économique dans lequel il décrit notamment la tentative ratée de la chaîne la plus puissante d'Europe de faire d'Édouard Balladur un président de la République. Dans La face cachée du monde, publié en 2003, il met à mal la réputation du quotidien du soir, s'attaquant en particulier à son trio dirigeant de l'époque, Jean-Marie Colombani, Edoui Plenel et Alain Minc. C'est dans Le Canard enchaîné qu'il sort sa première grande affaire, celle des fameux diamants de Bokassa. La polémique prend de l'ampleur 2 ans avant la présidentielle de 1981 et coûtera sans doute sa réélection à VGE. Ma méthode est exclusivement fondée sur le temps, disait Pierre Péan. Ses enquêtes fouillées prenaient parfois des années. Il publiait en moyenne un livre tous les 1 ou 2 ans.
Merci Antoine Marette, en direct ce matin sur France Culture. On apprend aussi ce matin la mort de Daniel Ehman, grande journaliste critique de cinéma qui avait été membre du jury du Festival de Cannes. Elle est décédée à l'âge de 86 ans. Avec Daniel Ehman, le cinéma français perd un de ses plus grands ardents défenseurs et la presse, une épatante rédactrice en chef. Le Festival de Cannes perd une complice et moi une amie de 40 ans, a réagi Gilles Jacob ce matin. Daniel était joyeuse, toujours partante et elle écrivait divinement, une pensée attristée pour ses filles, a ajouté Gilles Jacob ce matin. La fraîcheur de retour en France aujourd'hui avec donc 16 à 25 degrés du nord au sud pour les températures moyennes ce matin. Les orages arrivent par la façade atlantique avec 6 départements en vigilance orange. Les fortes pluies devraient s'étendre ensuite sur la majeure partie du pays. Il reste tout de même ce matin 31 départements en vigilance orange à la canicule. Ça concerne donc la Haute-Savoie, l'Auvergne, le Grand Est, la Bourgogne et la Saône-et-Loire notamment. Les 20 départements en vigilance rouge en revanche, c'est terminé. Les températures moyennes cet après-midi midi, comptez 20 degrés sur la façade atlantique, autour de 30 degrés sur la région parisienne et 37 degrés à Strasbourg.
Merci, c'était le journal de Sophie Delpont.